très bonne question pour vous. Concernant le péché, quelle est la différence entre le croyant et le non-croyant? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui ouvrira les yeux à plusieurs. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va voir la différence entre la lumière et les ténèbres aujourd'hui, à travers l'enseignement qu'on va recevoir de la parole de Dieu. J'ai bien hâte d'entendre ce que la Bible va répondre aux questions que voici. De quelle manière est-ce que l'Église du Seigneur doit se préparer pour la venue de Jésus? Est-il possible d'attrister le Saint-Esprit? De quelle manière est-ce que le croyant doit imiter Dieu? Face au péché, quelle est la différence entre le croyant et le non-croyant? De quelle manière est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut pratiquer la débauche? Qu'est-ce qui arrive à un enfant de Dieu qui pêche? Comment est-ce qu'on marche dans la lumière? Pouvons-nous amener une personne à se convertir en lui faisant la morale? Restez là, on va entendre un autre merveilleux message du Seigneur par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on a besoin de toi et on est heureux, on est dans la joie de venir à toi aujourd'hui, de venir à tes pieds pour écouter tes instructions. Comme Marie qui t'écoutait, qui était à tes pieds pour t'écouter, on veut être comme elle, avec le même esprit de douceur et de soumission devant toi, pour mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons vu que la vieille nature du croyant est crucifiée avec le Seigneur Jésus et qu'il lui donne une nouvelle nature. C'est ainsi qu'il impute sa justice au croyant. Le croyant est appelé à dire la vérité, surtout avec les membres du corps de Christ. Le chrétien peut aussi se mettre en colère sous certaines conditions, comme l'a fait le Seigneur Jésus. Celui-ci s'indigna lorsque les pharisiens l'éprouvèrent en amenant en sa présence un homme à la main sèche. Nous avons vu que demeurer neutre lorsque la vérité est attaquée est un acte répréhensible. L'amertume, les médisances et les calomnies peuvent attrister l'Esprit de Dieu en nous. Ces choses viennent de notre cœur. L'amertume n'est jamais un fruit de l'Esprit. Si nous pouvons attrister l'Esprit en péchant, nous ne pouvons pas le chasser. Maintenant, nous passons au chapitre 5. L'Église est appelée le nouvel homme au chapitre 4. Maintenant, elle sera appelée l'épouse du Seigneur Jésus. En fait, nous nous tournons vers l'avenir, car l'Église deviendra l'épouse de Christ à son retour. L'Église n'est pas encore l'épouse de Christ Jésus. Elle est le nouvel homme qui marche dans ce monde, et elle est fiancée au Seigneur Jésus. L'Église deviendra l'épouse après l'enlèvement de celle-ci. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Puis, un des sept anges, qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Citation du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 2 et 9. L'Église n'a du temps que pour son Sauveur. Sur terre, l'Église doit marcher comme une future épouse. Elle est présentement fiancée. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Lorsqu'une fille est fiancée et qu'elle prépare son mariage, elle n'a pas de temps pour ses anciens amis. Elle ne sortira pas avec Jean un soir, Richard le lendemain et ensuite Daniel. Elle est fiancée et ces personnes ne l'intéressent plus. Comme nous, qui sommes fiancés à Christ Jésus, pouvons-nous vivre comme le monde? Un jour, nous serons présentés au Seigneur Jésus. Nous passerons l'éternité avec lui et il sera notre Seigneur et notre Maître. Nous ne pouvons flirter avec le monde. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le mot « donc » fait un lien avec ce chapitre et l'enseignement pratique du précédent dans lequel Paul donnait des instructions pour la marche chrétienne. Ces instructions touchent l'Église qui sera présentée à Christ Jésus sans défaut et sans tache. Seul le Seigneur Jésus peut atteindre un but aussi louable et élevé. C'est le Seigneur qui fera tout le travail. Ceci devrait nous encourager à nous conduire de façon exemplaire sur terre. Nous pouvons attrister l'Esprit. Nous avons appris que le Saint-Esprit habite tous les croyants et qu'il les scelle, mais que nous pouvons l'attrister. Si nous commettons les péchés mentionnés au verset 31 du chapitre 4, nous attristerons l'Esprit. Mais cela ne nous exclura pas de la famille de Dieu. Nous demeurerons les enfants de Dieu. Cela signifie que le monde non converti ne croira pas que nous sommes enfants de Dieu. Cependant, nous sommes scellés de l'Esprit en attendant le jour de la rédemption, le jour où l'Esprit présentera l'Église au Seigneur Jésus. Ce but devrait nous encourager à bien nous conduire. Le croyant doit imiter Dieu, surtout en ce qui concerne le pardon. Cependant, l'exhortation s'applique à tous les aspects de notre marche chrétienne. Les païens qui marchaient dans un état spirituel lamentable sont maintenant appelés à marcher dans un état supérieur qui comprend l'amour. Ils sont appelés des enfants bien-aimés. L'état spirituel où ils sont élevés, c'est celui de l'amour que Christ a démontré en mourant à la croix pour nous, en se donnant comme sacrifice pour nos péchés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ceci parle de la croix. La mort du Seigneur Jésus fut plus que l'exécution publique d'un criminel. La croix est l'autel d'airain sur lequel fut immolé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La croix identifie le Seigneur Jésus à tous les sacrifices offerts dans l'Ancien Testament. Il était un symbole du sacrifice de Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus est mort à leur place, les croyants doivent atteindre un état spirituel élevé où il est capable d'aimer. Le croyant ne peut marcher avec un esprit attristé, car seul l'esprit peut produire ce fruit dans la vie d'un croyant. Rappelez-vous que l'amour est le premier fruit mentionné dans l'énumération de Galates, chapitre 5, verset 22. Poursuivons notre lecture d'Éphésiens, chapitre 5, versets 3 et 4. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on entende, ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le non-croyant n'a plus honte de son péché. Le chrétien pleure lorsqu'il pêche. Les péchés énumérés dans ces versets sont communs parmi les non-croyants. Ces péchés sont monnaie courante de nos jours, et les gens s'affiche ouvertement sans aucune honte. Tous concernent une immoralité dégradante. Paul dit qu'un enfant de Dieu ne peut pratiquer ses péchés de façon continuelle. S'il se permet une petite excursion dans le domaine, il se sent très coupable et malheureux. Il se méprise et son âme est troublée. si vous pouvez commettre un péché grave et ne pas être troublé, alors vous n'êtes probablement pas un enfant de Dieu. Cependant, si vous êtes convaincu de péché, vous pouvez toujours retourner vers votre Père céleste comme l'enfant prodigue et retourner chez son Père. Seul un fils peut retourner à la maison de son Père. Aucun pourceau ne l'a jamais fait. Les péchés mentionnés dans la liste sont caractéristiques des personnes qui ne craignent pas Dieu. Le croyant confesse ses péchés et des péchés spécifiques. Lorsqu'un croyant vient à Dieu pour confesser qu'il est pécheur, il ne fait pas juste une confession générale reconnaissant qu'il commet des péchés et qu'il n'est pas parfait. Il énumère plutôt ses péchés à Dieu. Il les appelle par leur nom. Si vous êtes une personne qui blesse les gens avec sa langue, vous lui dites que vous le faites et vous nommez la personne que vous venez de médire ou de calomnier. Si vous nommez vos péchés spécifiques, cela rétablit la communion avec Dieu. Ce sont les péchés que les croyants font de temps à autre. Lorsque cela arrive, ils doivent les confesser à Dieu pour en obtenir un plein pardon. Comment prier? Voici une traduction libre d'une citation. Parlez à Dieu comme si vous racontiez vos joies et vos peines à votre meilleur ami. Racontez-lui vos ennuis afin qu'il vous réconforte. Racontez-lui vos joies. Dites-lui vos aspirations et vos désirs afin qu'il les purifie. Dites-lui ce que vous n'aimez pas afin qu'il vous aide à régler le problème. Parlez-lui de vos tentations afin qu'il vous en protège. Montrez-lui les cicatrices sur votre cœur afin qu'il les guérisse. Parlez-lui de votre indifférence pour faire le bien, de vos désirs pour faire le mal et de votre instabilité. Dites-lui combien votre amour de soi vous rend injuste envers les autres. Combien la vanité vous fait manquer de sincérité et combien l'orgueil vous amène à vous tromper et à tromper les autres. Si vous lui exposez toutes vos faiblesses, tous vos besoins, tous vos ennuis, vous ne manquerez pas de sujets de conversation. Vous ne les épuiserez jamais. Ces sujets de conversation sont continuellement renouvelés. Les gens qui n'ont pas de secret entre eux ont toujours un sujet de conversation. Ils ne pèsent pas leurs mots car ils n'ont rien à cacher et ils ne cherchent jamais un sujet de conversation. Ils parlent de l'abondance de leur cœur et ils sont transparents. Ils disent ce qu'ils pensent. Ceux qui en arrivent avec une relation aussi intime avec Dieu sont bénis. Les croyants ont besoin de venir à Dieu et de lui dire ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. Quelqu'un peut dire, « C'est incroyable qu'un chrétien puisse faire un péché de cette liste. » Mes amis, si vous étiez un pasteur comme moi, vous sauriez que les chrétiens commettent ce genre de péché. Plusieurs chrétiens pensent qu'ils ont commis le péché impardonnable, mais ce n'est pas le cas. Il est possible de revenir vers Dieu. Un enfant de Dieu ne pratique pas la débauche. Le texte précise la débauche. La débauche est acceptée dans notre société contemporaine. Les clubs échangistes sont en voie de se faire légaliser. L'adultère et les échanges sont considérés des activités saines. Personne n'ose plus censurer quoi que ce soit. Il y a de la violence sexuelle dans les bandes dessinées destinées aux jeunes. Ce n'est rien pour un couple de faire l'amour le soir de leur première rencontre. La pornographie, illustrant toutes les formes de perversion, dont la pédophilie, est facilement accessible sur Internet. Il y a des restaurants où le sadomasochisme est permis. Tout cela a commencé avec la nouvelle moralité des années 60. Aujourd'hui, ces choses se font ouvertement sans aucune honte. Mes amis, si vous vivez dans la débauche, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, qu'importe qui vous êtes et où vous êtes. Quelqu'un peut protester et dire, « N'as-tu pas dit qu'un enfant de Dieu pouvait confesser son péché et revenir à Dieu ?» C'est vrai, mais un enfant de Dieu ne peut pas confesser un péché et persister à le commettre. Ceci révèle qu'elle n'est pas un enfant de Dieu. Le mot impureté, ceci comprend toute forme d'immoralité, et le mot cupidité, Le mot grec comprend l'idée de toujours en vouloir plus, et cela ne s'applique pas seulement à l'argent. Une personne peut désirer être supérieure aux autres intellectuellement. Elle peut convoiter une maison, un foyer ou une bonne situation. Certains aiment les titres et les postes. La personne cupide veut obtenir des biens et de l'argent pour atteindre ses fins égoïstes. Certaines personnes cherchent les honneurs. Ils ne se serviraient pas de leur position de pasteur pour s'enrichir, mais ils cherchent des positions dans leur confession religieuse, dans leur association d'église. Ils cherchent aussi des positions dans la communauté. La convoitise ne s'applique pas seulement à l'argent. Ne sois pas même nommé parmi nous. Nous ne devons même pas parler de ces choses pour les approuver ou parce que nous convoitons quelque chose. Des paroles grossières, ne parlons pas des choses dégoûtantes ni des pires formes de dépravation. Propos insensés, ne nous vantons pas de notre péché. Propos équivoques, ici, nous ne parlons pas d'un humour propre et sain. Il ne faut pas parler légèrement de la débauche ni de l'immoralité. Évitons de raconter des histoires salées. Des histoires sales, comme on dit communément. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà de quoi devraient parler des chrétiens. Les chrétiens devraient développer l'habitude de rendre grâce et de louer Dieu. Verset 5 d'Éphésiens chapitre 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. L'homme non régénéré, qui pratique ses péchés, n'a aucune part dans le royaume de Christ et de Dieu. Si quelqu'un qui affirme être chrétien pratique ces choses, cette personne se classifie elle-même. Qu'importe son témoignage, le dimanche, et sa position dans l'Église, cette personne dit au monde qu'elle n'est pas un enfant de Dieu. Vivre selon la corruption de la chair, c'est nier être un enfant de Dieu. Versets 6 et 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. L'enfant de Dieu qui pêche s'attire un châtiment. Puisque la colère de Dieu sera répandue sur les rebelles qui pratiquent ces péchés, il s'ensuit que l'enfant de Dieu ne peut y participer sans déplaire à Dieu et s'attirer une forme de jugement ou de discipline. Si cette personne est vraiment un enfant de Dieu, Dieu la jugera. Il a jugé David, si vous vous souvenez bien. David a dû subir le châtiment de Dieu. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. Si vous pouvez pécher et vous en glorifier, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu devra vous condamner avec le monde, ce qui signifie que vous n'êtes pas sauvés. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous pratiquez ces choses, Dieu vous châtiera. Si Dieu ne vous châtie pas, alors vous êtes dans un état inquiétant. Cela signifie que vous n'êtes pas son enfant, car Dieu ne châtie pas les fils du diable, il châtie les siens. Versets 8 à 10. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Paul rappelle aux Éphésiens leur condition avant leur conversion. Ils n'étaient pas seulement dans les ténèbres, ils étaient les ténèbres. Nous disons que les non-régénérés sont dans les ténèbres, mais leur état est pire que cela. Comment marche-t-on dans la lumière? Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Cela signifie que nous devons réfléchir la lumière de celui qui est la lumière du monde. Paul identifie les fruits de la lumière, la bonté, la justice, dans le sens de la droiture, et la vérité, ce qui comprend la sincérité et l'authenticité. Le croyant doit examiner s'il porte ses fruits pour déterminer s'il est dans la volonté de Dieu et qu'il lui plaît. Rappelez-vous que 1 Jean chapitre 1er verset 7 parle de marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Quelqu'un m'a demandé ce que signifie marcher dans la lumière de Dieu. Ici, nous en avons une description provenant de la parole de Dieu. Marchant dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. C'est ainsi que nous devons marcher 7 jours par semaine, pas seulement le dimanche. Cela signifie 60 minutes par heure, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Versets 11 à 13. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, précise le texte. Un enfant de Dieu ne peut collaborer avec les œuvres des ténèbres, tout comme la lumière et la noirceur ne peuvent se mélanger dans le monde naturel. Nous devrions même avoir honte de parler de ce qu'ils font en secret. La critique ne convertit personne. La lumière chasse les ténèbres. Plutôt, nous devons les convaincre de péché. Cela ne signifie pas que le croyant doit devenir un réformateur. Sa façon de vivre doit condamner les autres et les troubler dans leur conscience. La lumière révèle ce que cachent les ténèbres. Nous ne pouvons pas chasser les ténèbres avec des sermons, cependant la lumière dissipe les ténèbres. Écoutez ce texte tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 19 et suivants. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Les enfants de lumière recherchent la lumière. Trop de chrétiens critiquent et prêchent aux non-convertis. Ils approchent une personne non-croyante en lui disant « Tu ne devrais pas faire ceci ou cela. » Mais, mes amis, ce n'est pas la méthode d'approcher les ténèbres. Vous êtes la lumière. Nous ne pouvons pas aborder les gens en leur disant « Fais ceci, ne fais pas cela. » Nous devons exposer la lumière de la parole. Ce n'est pas en faisant des discours à une personne et en lui disant ce qu'il fait de mal que nous le convertissons. Vous ne devez pas essayer d'amener un non-converti à modifier sa conduite, il en est incapable. Il doit naître de nouveau pour faire cela. Soyez plutôt une lumière. Cela touche les cœurs et éloigne la noirceur. Une femme cherchait à convertir son mari en lui prêchant. Il ne semblait pas intéressé par l'Évangile. Un jour, elle comprit que la Bible lui demandait de se soumettre à son mari. Elle le fit. Et en faisant cela, elle devint une lumière. Son mari se convertit en voyant sa femme se soumettre à lui. La lumière a dissipé les ténèbres, ce que n'ont pu faire les discours de la dame. Chers amis, nous sommes invités non à discourir sur la parole de Dieu, mais à vivre de cette parole de Dieu. Que vous puissiez la recevoir dans votre vie, dans votre cœur, et par le fait même faire briller le visage de Christ. Et les gens de votre entourage verront à qui vous appartenez, soit aux ténèbres ou soit à la lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer tous les hommes, la personne de Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens, chapitre 5, en méditant les versets 14 à 20. Bonne lecture à tous.
Merci, Régent. Quelle différence il y a entre la lumière et les ténèbres. On voit bien à travers l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui qu'un enfant de Dieu est incapable d'être à l'aise de vivre dans le péché. Il est incapable de pratiquer le péché. D'ailleurs, ou bien il voit tout de suite qu'il a commis un péché et il s'en repent, ou bien il va un peu plus loin, mais pas trop longtemps parce que le Seigneur le reprend. Mes amis, il y a une autre chose aussi que j'aimerais partager avec vous. parce que j'ai vraiment aimé le dernier exemple que Réjean nous a donné aujourd'hui de la femme qui cherchait à convertir son mari en lui prêchant. Son mari ne semblait pas intéressé par l'Évangile. Et un jour, elle a compris que la Bible lui demandait de se soumettre à son mari. Et elle s'est soumise à lui, et par le fait même est devenue une lumière pour son mari. Et le résultat, c'est qu'il s'est converti. Réjean a dit que la lumière avait dissipé les ténèbres et non les discours de la dame. Ceci me fait penser à un frère qui me racontait que sa femme s'était convertie bien avant lui. En devenant une enfant de Dieu, elle a tout de suite réalisé que le Seigneur lui demandait d'être soumise à son mari. Et en passant, mes amis, si vous pensez que c'est horrible dans le siècle où nous vivons qu'une femme se soumette à un homme, ne croyez pas que la soumission est une forme d'esclavage ou que ça rend la femme inférieure à l'homme. Ce n'est pas du tout le cas. Pour ma part, je ne suis pas mariée, mais j'ai des amis qui le sont et qui aiment leur rôle d'épouse. Ce rôle est différent et ne rend pas la femme inférieure à l'homme. Un jour, peut-être que Réjean pourra apporter un enseignement à ce sujet. Mais pour revenir à ce frère qui n'était pas encore converti, il voyait quotidiennement sa femme bien remplir son rôle d'épouse dans la soumission. Et ceci l'a finalement touché au point qu'il a accepté de l'accompagner à une soirée d'évangélisation. Et ce soir-là, il y a eu un appel à la repentance à la fin du message de l'évangéliste. Et le mari de la dame s'est retrouvé devant la foule en larmes, repentant et suppliant le Seigneur de le sauver, de lui donner la vie éternelle. Et ce soir-là, il est né de nouveau. Il est devenu un enfant de Dieu et s'est mis lui aussi à marcher dans la lumière comme son épouse. Mon ami, est-ce que tu marches dans la lumière? Si tu es incapable d'y arriver, c'est peut-être parce que tu ne connais pas encore intimement celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Tu peux voir ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12. Tiens, je vais te le lire. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et plus loin, au verset 24, il a ajouté, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Mon ami, le Seigneur ne veut pas que tu meures dans tes péchés. Il veut au contraire que tu avoues que tu es un pécheur. La Bible nous enseigne que tous ont péché. Et aussi, ce que le Seigneur veut que tu fasses pour devenir un enfant de Dieu, un enfant de lumière, c'est que tu te repentes, que tu changes de direction à l'égard du péché. Et ensuite, il veut que tu croies en lui seul pour le pardon de tes péchés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Repens-toi, mon ami. Tu es incapable de te sauver toi-même. Tourne-toi vers Jésus et dis-lui, « Seigneur, sauve-moi, je ne mérite pas que tu me sauves, mais sauve-moi parce que tu as payé pour moi. »
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir, ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.